Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Ktuvot, page 15, DAF Tetvav.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Ktuvot et Tetvav. La Gemara continue à nous prouver qu'il faut avoir deux roves pour pouvoir permettre cette femme, comme Rav Tibi nous avait dit, qu'on va d'après la majorité de la ville, mais on ne va pas d'après la majorité des gens de passage. Non, la Gemara, mais c'est pas logique. Arrêt, ceux qui sont de passage se déplacent, alors que ceux de la ville ne se déplacent pas, et comme on va le développer dans la Gemara, on préfère s'appuyer sur un rov qui se déplace plutôt que celui qui ne se déplace pas. Et là, forcément, c'est comme on l'avait vu hier, on s'appuie sur le rov de la ville, à condition qu'il y ait aussi des gens de passage, et grâce à ce rov-là, ces deux rov-là, on peut les permettre, mais un seul rov n'est pas suffisant. La Gemara continue en disant pourquoi est-ce qu'un seul rov n'est pas suffisant, puisque si on avait permis d'utiliser le rov de ceux qui sont de passage, on se serait suffi aussi du rov des gens de la ville, et c'est un problème, comme on va le voir tout à l'heure. Le rov des gens de la ville aussi, c'est un problème seulement quand ils ne se déplacent pas, c'est-à-dire quand elle est partie avoir un rapport avec une des personnes de la ville, et donc c'est défini comme kavua. Mais si ce sont eux, si c'est un homme de cette ville qui est parti, qui s'est déplacé pour avoir un rapport avec elle, on pourrait utiliser la règle de Kol Deparish Merubah Parish, c'est-à-dire que quand on a une question de savoir d'où cette chose est venue, on peut la définir venant du rov. La Gemara nous dit, quand elle est partie vers eux, et donc c'est défini comme kavua, comme on l'a déjà vu, kavua kemertsal mersalame, c'est-à-dire, puisque la question c'est de savoir vers qui elle est allée, et la majorité est fixe, elle n'a pas bougé, on considère ça comme 50-50. Demande la Gemara, comment se fait-il que tu me dis qu'il faut deux roves ? Arrête pourtant, on a 9 magasins qui vendaient de la viande cachère, une qui vendait de la viande non cachère. Il a acheté de la viande, il ne sait pas de quel magasin il a acheté. On considère ça comme un safek interdit. Par contre, si la viande s'est trouvée dans la rue, on va aller d'après un seul des deux roves. On va se suffire, on va aller d'après le rove. Peut-être que tu veux me dire que quand est-ce qu'on s'est permis d'aller dans un rove ? Parce que en daltot medina neulot, c'est-à-dire qu'il y a aussi du passage extérieur, et c'est comme s'il y avait deux roves. Mais pour c'est pas vrai, c'est marqué clairement que même si les portes sont fermées, on a le droit d'aller d'après un rov. Pourquoi est-ce que chez nous, on irait seulement d'après deux rov ? Puisque ici, c'est un yin de yichus. C'est pour ça qu'on a été marqué. Ramel Agmara, ce qu'on a vu précédemment, kol kavua kemertzel mersalame, c'est-à-dire que quand on veut se baser sur un rov qui est fixe et qui ne bouge pas, on considère ça 50-50, que ce soit la kula ou la khumra. On dit l'Agmara, d'où est-ce qu'on sait bichlal qu'il y a cette halakha de 50-50 est égal à rov fixe est égal à 50-50. Si tu me dis qu'on apprend ça du magasin, des 9 magasins qui vendaient de la viande cachère, rien qui vendait de la viande pas cachère, et on ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas d'où il l'a acheté, c'est interdit. Et s'il le trouve, c'est permis, là-bas c'est la chumra. Nous, est-ce qu'on sait que la kula aussi, on va dans ce sens-là? Peut-être que tu vas me dire de ce qui est marqué au sujet de 9 tsfardim qui, quand ils meurent, ne se rendent pas tamés. Et il y a 8 shratim qui eux rendent tamés quand ils sont morts, et donc on a 9 tsfardim et un de ces 8 qui est mélangé. Et lui ne sait pas qu'est-ce qu'il a touché. On le considère comme ça fait tamé. Donc on voit que, bien que on a un rov de non tamé, on le considère comme tamé. Mais là, encore une fois, c'est la khumra. Et là, forcément, je la gmara. Quand on a l'autre cas, c'est-à-dire 9 qui sont tamés, un qui n'est pas tamé, il ne sait pas lequel il a été touché, alors on considère ça comme un safek, et donc il y aura les règles normales du safek, dans Reshut Ha'achid c'est tamé, dans Reshut Ha'rabim c'est tor. Ah, on a une majorité, et on considère ça comme un safek à égalité, donc on voit que on considère ça un safek à égalité, même la kula. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah ? C'est marqué au sujet de celui qui avait parti tuer, s'il est parti et il avait l'intention de tuer telle personne, là il sera chayav. Rabbanan le pense que même s'il n'avait pas l'intention de tuer cette personne, il serait chayav. Alors pourquoi est-ce qu'il est marqué ve aravlo ve kamalav? Ça vient exclure le cas d'une personne qui a jeté une pierre ou sur un groupe de personnes. Dans ce cas-là, il serait pas tour. De quoi on parle? Si on parle d'un cas où il y a 9 non-juifs et un Israël, eh bien il y a 9 non-juifs, c'est pour ça qu'il n'est pas chayav. Même s'il y avait 50% de juifs et 50% de non-juifs, c'est évident qu'il serait pas chayav. Et là, forcément, on parle d'un cas où il y a 9 juifs et un non-juif. Et donc, on définit le safek comme kavua, c'est-à-dire le rov n'est pas venu à moi, c'est moi qui va vers un endroit où il y a un rov kavua. On considère ça comme mertsal comme un safek à égalité. C'est pour cela qu'il n'est pas tour, qu'il ne sera pas chayav, on ne devra pas le mettre à mort. On dit que la halakha est comme Rabbi aussi, au sujet de ce qui nous a dit au nom de Rabbi Yochanan ben Nourim, qu'on peut permettre à cette femme de se marier avec un Kohen. Rabbi Rabban nous dit que c'était exceptionnel ce psak-là. On dit la Gemara, quoi tu voudrais dire que c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de deux rov, et pourtant, dans le Mishnah, il est marqué que si jamais on a trouvé un enfant, on ne sait pas s'il est juif ou pas. Si la majorité des gens est non-juif, on considère comme non-juif. Si la majorité est juive, on considère comme juif. À égalité, on considère comme juif. Rav nous a dit que cet enseignement, c'est seulement pour les achyoto, c'est-à-dire pour avoir l'obligation de le nourrir. Mais les yuchasin, pour le considérer comme juif, pour lui permettre de se marier pour un kohen, ça n'est pas bon. Shmuel nous dit que c'est bon, que cet enseignement, c'est aussi pour les fakar et la betagal, c'est-à-dire pendant Shabbat, si jamais il est enseveli sous des pierres, on n'a pas le droit d'adorer Shabbat tant qu'on n'est pas sûr qu'il est juif. Donc les fakar et la betagal, on le considère aussi comme juif. Donc nous dit la Gemara, tu vois bien que on voit dans des paroles de Rav qu'on a besoin de deux Rav. On ne se permet pas d'un seul Rav. La Gemara nous dit, mais Rav lui-même nous a dit que Bekeronosh et Tzipori avamaasé, c'est-à-dire que Rav lui-même nous a dit qu'il fallait deux Rav. Chez nous aussi, il a dit qu'il fallait deux Rav. Donc on voit pour le Yichus, il faut deux Rav. Demande la Gemara. Alors celui qui a dit que c'était exceptionnel, ça sous-entend que c'était simplement ça qu'on avait permis. Mais en général, on n'a pas besoin de deux Rav. Comment est-ce que c'est possible de dire ça? Arrête d'après Rav, on voit qu'en général, il faut deux Rav. La Gemara nous dit, bien mettre man de matinéa lo matéa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les deux enseignements. Celui qui te dit que Bekornosh et Tzipori ayamaasé, mais il ne te dira pas que c'est exceptionnel, c'est tout le temps comme ça. Et celui qui te dit que c'est exceptionnel, c'est parce que c'était exceptionnel qu'on avait permis un seul rov. Mais en vérité, il faut deux rov. La Gemara maintenant s'arrête sur cette braïta. Il est marqué que celui qui trouve un enfant, donc si le rov non juif, il est non juif, si le rov juif, il est juif, c'est 50-50, il est juif. Rav nous dit que c'est simplement, quand on te dit qu'il est rov Israël, c'est simplement qu'on se suffit de ça pour avoir l'obligation de le nourrir, mais ce n'est pas suffisant pour le définir comme un juif cachar pour se marier avec lui. Et Shmuel nous dit les fakar alav et tagal, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une majorité de juifs, on devra venir déblayer. Je dis à Gemara, comment est-ce que tu peux le salon de Shmuel? Arrête, Shmuel nous dit que dans Pikouach Nefesh, on n'a pas besoin du rov. Donc même s'il y a une majorité de non-juifs, on devrait quand même être Mechalel Shabbat pour lui. Donc pourquoi est-ce que tu nous dis qu'il faut qu'il y ait un rov pour être Mechalel Shabbat pour lui? Là, nous dit la Gemara, ce que Shmuel nous a dit, c'est sur la Recha. On le considère comme rov s'il y a une majorité de non-juifs et les non-juifs. Mais si c'est pour déblayer, même s'il y a une majorité de non-juifs, on a l'obligation de déblayer. S'il y a une majorité de non-juifs, alors quelle est la halakha? On va dire qu'on a le droit de lui donner, de le nourrir avec des nevelot. Et si la majorité de juifs, il est défini comme juif, à quel sujet? Pour avoir l'obligation de lui rendre quelque chose s'il a perdu. S'il y a 50-50, quelle est la halakha, les nezakin? La Gemara explique tout de suite, c'est-à-dire quoi les nezakin? Si tu vas me dire que notre taureau a attaqué le sien, et donc la question c'est de savoir combien je dois lui payer, alors je devrais lui dire, bah, moti mechavero la varia, prouve que tu es juif, et je te rembourserai. Et là, je dis, non, en vérité, c'est son taureau à lui qui a attaqué le nôtre. Donc nous, il doit nous payer en tant que chantam moitié du Nézek. Mais s'il est non-juif, eh bien, il devrait payer 100%. Eh bien, il va nous dire, sur l'autre partie, prouve que je ne suis pas juif, et je te paierai ensuite. La Mishnah nous enseigne, la Mishnah du Perek Sheni nous enseigne, une femme qui a perdu son mari ou qui a divorcé, et elle dit, j'ai été mariée vierge, et lui dit, non, ma pitom, je t'étais mariée alors que t'étais déjà mariée avant ça, et donc ta ktouba est plus petite. S'il y a des témoins qu'elle est sortie, Beinouma, la Gemara explique ce que ça veut dire, et ses cheveux étaient découverts, sa ktouba est donc de 200, parce que ça prouve que c'est une betoula. Même chilouk klayot, c'est-à-dire certaines friandises qui étaient distribuées dans ce genre de mariage, ça prouve que c'est une betoula. La Gemara passe à la Mishnah, passe à un autre sujet, aucun rapport, la Gemara expliquera le lien. Rabbi Yoshua est d'accord que si jamais je dis à quelqu'un, tu sais, ce champ appartenait à ton père, et je lui ai acheté, je suis Néman, à Péchassar, à Péchitir, c'est-à-dire le fait que j'ai avoué qu'elle appartenait à ton père, mais j'ai aussi dit que je lui ai acheté, donc c'est moi qu'on doit croire. Mais s'il y avait des témoins qu'elle appartenait à son père, et moi je le dis, c'est vrai qu'elle appartenait à ton père, mais je l'ai acheté, je ne suis pas Néman. On va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. La première chose qu'on a expliquée, c'est que l'obligation d'avoir de deux robes n'est pas une obligation minatora, c'est une chumra qu'on a eue dans Yuchasin pour pouvoir lui permettre de se marier avec un Kohen, mais en vérité on se suffit d'un seul Rov. On a vu qu'il y avait deux différences entre Rov, il y a le Kavua et il y a le Rov qui se déplace. Le Kavua, c'est-à-dire quand j'ai un Safek sur quelque chose qui ne se déplace pas, on a dit que c'est égal à Mertza, Mertza, il n'y a pas, le Rov ne peut pas être Machria. Par contre, quand ça se déplace, on peut aller d'après un Rov. On a vu que quand on a un Safek au sujet d'un enfant, est-ce qu'il est juif ou pas, on a l'obligation d'être Mechalel Shabbat, même si la majorité de la ville est définie comme non-juif. Même si la majorité est juive, ça n'est pas suffisant pour le pouvoir se marier avec lui. Quand on a un Safek, est-ce qu'il est juif ou pas, on devra, il devra payer 50% du dégât. Et tant qu'on n'aura pas de preuve qu'il est non-juif, il ne devra pas payer plus que ça. Une femme qui affirme qu'elle s'est mariée vierge, eh bien, si elle a une preuve quelconque, par une preuve circonstancielle, le mariage s'est passé de telle ou telle manière, on la croit. On a vu aussi un nouveau moussa qui s'appelle la péché à ça, la péché à tir. C'est-à-dire, c'est moi qui ai créé le problème et c'est moi qui règle le problème, c'est moi que tu dois croire. Mais si le problème était déjà connu, mon argument n'est pas suffisant. Le DAF éclaire au prochain, mais à demain, Bezrat Hashem.